Votre matinale info, Europe Matin Weekend. Pierre de Villeneuve.
8h15 et direction Deauville, le festival du film qui a commencé vendredi soir. Et parmi les jurés, eh bien, il y a Delphine Horviller, rabbin, écrivain, philosophe. Bonjour Delphine Horviller, merci d'être avec nous en duplex.
Merci, bonjour à tous.
Comme vous le dites souvent, Delphine Horviller, ce sont les histoires d'hommes qui font la vie. Des histoires extraordinaires d'hommes et de femmes qui, de tout temps, on le sait, ont été le commencement de textes religieux. Est-ce que c'est pour cette raison, parce que le cinéma raconte aussi les histoires qui font la grande histoire, que vous êtes dans votre rôle à Deauville en tant que juré?
Écoutez, je crois qu'effectivement, enfin, en tout cas, c'est lié à mon choix d'avoir accepté cette invitation qui a pu sembler un peu surprenante. J'ai été touchée et honorée qu'on me propose d'intégrer ce jury. Et c'est vrai que la question de l'histoire, des histoires, de à quoi servent les histoires qu'on nous raconte est quelque chose qui est une question qui est importante pour moi et qui nourrit mon travail de rabbin et d'auteur depuis des années, au cœur de la question religieuse. Quelle que soit la façon dont on interprète ce thème, il y a effectivement la question des histoires sacrées, à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles nous permettent d'expliquer, comment est-ce que chaque tradition et finalement chaque être humain a besoin d'histoires et de raconter des histoires pour interpréter le monde autour de lui.
Et ça va de l'un à l'autre puisque la fiction s'inspire de l'histoire et inversement.
Oui, et c'est vrai que le cinéma pour ça est un outil clé. Moi j'ai l'impression d'avoir la chance de plonger dans des univers, voilà, c'est aussi à Deauville, qui sont finalement des façon de regarder le monde. Alors ça se passe bien entendu comme c'est des films américains de l'autre côté de l'océan, mais ça permet d'abattre des frontières. J'ai l'impression que ces derniers mois, on a dans ce confinement eu à repenser la question des distances géographiques, la question des distances historiques aussi, à vrai dire, dans un moment où les portes étaient fermées, les murs étaient épais. Peut-être que plus que jamais, on s'est rendu compte que parfois, ce qui se passe au bout du monde nous concerne directement et on n'est pas au courant de ce qui se passe dans l'appartement du voisin. Mmh. Parfois, des histoires qui se sont passées il y a très longtemps nous racontent quelque chose de très vrai sur ce qu'on vit aujourd'hui ou ce qu'on pourrait vivre demain. Et donc, tout à coup, il y a une porosité particulière dans nos mondes qui nous permet de le penser autrement.
Ce qui est important pour vous, bien sûr, c'est la puissance des récits. Et vous narrez, par exemple, l'histoire du rabbin dans la grotte qui a passé tellement de temps dans l'obscurité que lorsqu'il en ressort, son regard incandescent détruit tout sur son passage. Il y a ces histoires aussi, hein, tristes, tragiques, inacceptables. Cette semaine, devant la justice, l'histoire de la violence à travers le procès de Charlie Hebdo. Comment est-ce que vous avez suivi ces débats? Avec quel sentiment, avec quelle réflexion?
Oui, d'abord, je vous remercie d'avoir fait référence à cette petite histoire talmudique que j'ai souvent racontée pendant le confinement parce qu'elle me semblait avoir une pertinence particulière, l'histoire de cet homme qui passe 12 ans de sa vie dans une grotte et qui développe un certain nombre de certitudes qui font que quand il sort de ce confinement-là, eh ben, on nous met en garde contre une volonté de détruire le monde. Et c'est pas sans lien avec effectivement ce qu'on vit, ce dont on est témoin aujourd'hui et finalement à ce que peut être parfois le sens et l'action d'un certain fanatisme, d'un danger fondamentaliste dans le monde, c'est-à-dire une volonté au nom de sa vérité, de ses certitudes, de les imposer aux autres, dans la violence, parfois de détruire le monde au nom de ses convictions. Donc effectivement, j'y pense beaucoup aujourd'hui, mais comme chacun d'entre nous, avec l'ouverture de ce procès, je pense aussi à la nécessité d'entendre toutes les histoires aujourd'hui. Je crois que depuis quelques jours, on réentend, et tant mieux, beaucoup de témoignages de gens qui étaient là, qui étaient autour, qui y ont échappé, la façon dont c'est si difficile, voire impossible pour eux de reconstruire leur vie après. Et la nécessité de les entendre et de penser quel deuil on a eu à faire individuellement ou collectivement il y a 5 ans de ça, et quel impact ça a sur ce qu'on est aujourd'hui. Ce qu'on pourrait être, voyez, à nouveau, c'est une question d'histoire, de quelle manière, la façon dont on va se raconter cette histoire, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, à la génération suivante, va définir ce qu'on pourrait devenir.
Vous dites d'ailleurs que la capacité d'empathie est le meilleur antidote au fanatisme.
En tout cas, je crois que oui, la possibilité de se mettre à la place des autres est toujours clé est toujours un outil pour ne pas tomber dans ce fanatisme, dans ce fondamentalisme.
C'est difficile de penser comme ça. J'entends bien évidemment votre message d'espoir, mais quand vous voyez l'un des principaux protagonistes au procès Charlie, qui encore cette semaine à la barre a dit « le jour où je ressortirai de prison, je ferai pire ».
Oui, c'est difficile. Il faut penser effectivement tout l'endoctrinement qu'il y a derrière, hein. C'est-à-dire toutes les histoires de mort qu'on a pu raconter à la personne qui énonce cela et qui n'est plus voilà dans la possibilité de sortir de ce narratif morbide.
C'est ça.
En fait.
C'est-à-dire
les histoires, elles peuvent le meilleur comme elles peuvent le pire.
Oui, c'est ça. On arrive à un moment donné à la fin, j'allais dire, du curseur. Et on n'arrive plus à en sortir. C'est là que naît ou que naissent des mots, des termes. On parle beaucoup d'ensauvagement aujourd'hui. Que pensez-vous de ce terme, de cette vision, et à votre avis, quel est le remède ?
Moi, je crois qu'il faut se méfier de ces mots à nouveau qui nous enferment. C'est-à-dire, ensauvagement, qu'entend-on exactement par là? Quand on utilise ce terme, on suggère à travers ce terme que quand on est un peu plus civilisé, c'est-à-dire quand on nous a raconté d'autres histoires, qu'on est sorti peut-être d'une naïveté première, on pourrait échapper à cette violence, à ce fondamentalisme ou à ce fanatisme. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, on le sait. On sait que dans l'histoire, il y a des gens extrêmement civilisés qui ont fait des choses horribles. Il y a des gens qui ne l'étaient pas, qui n'ont gêné personne. Donc en fait, la question n'est jamais la question de la sauvagerie ou de la civilisation face à elle. Encore une fois, pour moi, la question, et j'y reviens, je le martèle un peu, mais c'est finalement quelle histoire on vous a racontée. Et quand une civilisation ou une société ou un individu se construit sur des discours de certitude, discours où il n'y a aucune place laissée ou faite à l'autre, où l'autre s'éclipse ou est à détruire, Alors à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus de place pour se parler.
Y a-t-il un fanatisme de l'envie, de la jalousie, aussi parce que 85% des richesses mondiales sont détenues par 1% des individus, et qu'au bout d'un moment, les gens se rebellent ?
Je crois que la volonté de lutter pour plus de justice, d'équité ou de répartition des richesses, voilà, est de façon générale positive. Mais effectivement, la question de l'envie, de la jalousie, peut donner lieu aux pires dérives, peut effectivement nous emmener vers une volonté, exactement comme dans l'histoire dont je parlais tout à l'heure, de tout brûler.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes témoin d'une injustice ? Est-ce que cette vision-là, elle vous rend plus fort pour lutter pour un changement, ou alors est-ce que finalement elle vous enferme dans une volonté de tout briser, de tout détruire et d'en finir avec le monde?
C'est intéressant ce que vous disiez à propos de l'enfermement autour du mot ensauvagement, mais pour en revenir au fanatisme, vous dites, et je trouve assez justement, que le fanatisme, c'est pas seulement religieux, ça peut être identitaire, ça peut être vegan, ça peut être féministe.
Oui, ça peut être toute idéologie peut vous mener à une forme de fanatisme.
On va trop loin dans ces labels aujourd'hui, dans ces marqueurs.
Oui, moi je sais pas si je crois que c'est pas la question des marqueurs qui est en jeu, c'est davantage un état d'esprit à nouveau de faire de la place à l'autre dans votre univers ou pas. Je crois que plus que jamais, on a besoin d'être en contact avec des gens qui sont pas d'accord avec nous, et ça devient de plus en plus difficile dans notre société parce que les réseaux sociaux sont pas sans lien avec cette problématique. La plupart du temps, on ne souhaite pas faire de la place avec une personne qui ne pense pas comme vous, qui ne vote pas comme vous, qui ne lit pas les mêmes livres ou qui n'utiliseraient pas les mêmes mots. Et je pense qu'il faut se méfier de ça, parce que finalement la seule chose qui peut nous faire grandir, c'est la confrontation avec un autre qui n'est pas de votre avis, à condition bien sûr que cet autre dans son univers fasse aussi de la place pour vous. Et c'est toute la difficulté. Voilà, on peut pas faire de la place à tout et à tout le monde, mais en tout cas il faut être capable d'entrer dans un dialogue où il y a du désaccord. Alors c'est vrai que dans ma tradition religieuse, c'est quelque chose de très central, parce que le Talmud, par exemple, est un livre, si vous l'ouvrez, vous vous rendez compte qu'il est rempli de débats entre des gens qui ne tombent pas d'accord. D'ailleurs, en français, le mot « tomber d'accord », vous l'entendez bien, ça raconte une chute. En fait, c'est le désaccord qui vous élève. Quand vous êtes d'accord, totalement d'accord avec quelqu'un, alors a priori, vous êtes tombé très bas. En fait, il faut toujours chercher quelqu'un qui va vous apporter une contradiction.
Alors, continuons.
Et je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui.
Continuons le débat, et je citerai cette dernière phrase de vous. Il faut revivifier cette capacité humaine à se mettre à la place de l'autre. Merci beaucoup, Delphine Horwiller, madame la jurée du Festival de Deauville. Bon visionnage de ces films, de ces histoires d'hommes et de femmes qui font la vie.